What is this, Connor? Easy, easy, old man. She's not hurt?
No,
no. Not wounded, sir.
Get
it's been a long time.
Yes, ma'am.
Mi conosce?
Filumena.
Filumena.
Proprio non mi ricordate.
Menose battitissimo. Proprio battitissimo.
Voilà, nous sommes donc bien sûr Fréquence 7 avec aujourd'hui une invitée, Pauline Seglin. Bonjour Pauline.
Bonjour.
Que nous sommes ravis d'accueillir, une productrice donc qui va nous parler de son métier. Alors justement, votre métier, ce métier de producteur-productrice est très mal connu, me semble-t-il. On voit en quoi consiste le métier d'acteur, évidemment. On voit plus ou moins où commence et où s'arrête le métier de metteur en scène, mais... À moins d'être un cinéphile averti, on voit très mal où commence et où finit le métier de producteur. Est-ce que vous pouvez nous éclairer ?
Oui, bien sûr. Moi, je dirais que producteur, c'est un peu comme éditeur pour un écrivain. On est là du tout début de l'idée jusqu'à la toute fin. Il n'y a pas vraiment de fin pour l'histoire d'un film, donc... On est là pour toujours, dans la vie d'un film. Donc c'est le seul métier vraiment aux côtés du réalisateur qui vraiment englobe toutes les phases de fabrication d'un film.
Alors j'imagine qu'il n'y a que des cas de figure, mais est-ce que, on a du mal à saisir l'ordre dans lequel interviennent les différents protagonistes. Qui c'est le scénariste, le metteur en scène, le producteur? Comment ça peut se hiérarchiser?
Alors le producteur, il est là... sur toutes les phases, vraiment. Donc, il est là. Il a choisi de travailler avec un metteur en scène. Ensemble, ils co-pensent des idées. Quand ils sont raccord sur un projet, le réalisateur va commencer à l'écrire. Le producteur va financer cette phase de risque. Parce qu'il y croit et il va lire chaque version. Donc au début c'est 5 lignes, puis après c'est une page, puis c'est 5 pages, puis c'est 10 pages, et comme ça on développe un projet. Et puis des fois on revient en arrière parce qu'on se dit on s'est fourvoyé, et puis on associe des scénaristes à ce développement. C'est pas un scénariste qui écrit le film tout seul comme ça, c'est vraiment le scénariste, il écrit au service du réalisateur, avec le réalisateur. Et le producteur, il lit toutes les versions tout le temps. Et il accompagne cette phase d'écriture. Puis, quand on a une version bien costaud, on va chercher des financements. Et pareil, on ne le fait pas tout seul. On le fait avec le réalisateur, qui est très important dans la phase de financement. On va ensemble passer des oraux, des entretiens, des rendez-vous. On crée des objets annexes. Du scénario, des notes d'intention, des mood boards, des réflexions comme ça pour convaincre tous les financiers. Donc en fait, le réalisateur, il est très important aussi pour la phase de financement. C'est pas du tout que le problème du producteur. C'est aussi quelque chose qu'on fait main dans la main. Et après, ça se déroule comme ça, la phase du casting, la phase de trouver des techniciens. Tout ça se fait main dans la main entre le producteur et le réalisateur. Nous, on est là vraiment. Il n'y a pas une décision qui se prend sans notre avis, notre accord, mais sans que ce soit une décision au-dessus de celle du réalisateur. C'est vraiment quelque chose de très horizontal, quoi. Voilà.
Mais l'idée de départ peut venir du producteur, du metteur en scène.
Oui. Tout à fait, ça arrive que le producteur donne des idées au réalisateur. En fait, ce qui se passe, c'est que, en tout cas nous, au sein de Grand 8, qui est notre petite structure qu'on a montée avec mon associé Lionel Massol, on est vraiment dans quelque chose de très artisanal, et donc on suit les mêmes personnes depuis des années et des années. Donc depuis le moment où ils sont venus, certains même n'étaient même pas encore réalisateurs. Quand ils sont venus, c'était par exemple, je prends l'exemple de Marek Engelhardt qui est venu présenter Rabia l'année dernière. Elle était assistante réalisateur, donc elle travaillait sur des plateaux comme
en France
et en Allemagne, mais beaucoup en France. Elle a travaillé avec des grands réalisateurs, avec Katell Kilivere, même avec Polanski et tout ça. Et elle avait envie de faire des films. Et donc, elle discutait avec nous. Elle nous disait, voilà, j'ai cette idée, j'ai envie de faire ce projet et tout ça. Et elle discutait avec nous. Et nous, on l'a accompagnée dans son premier court-métrage. Et puis après, par la suite, sur les autres films.
Et alors, est-ce que vous pourriez justement appliquer ce que vous avez dit à l'exemple de Rabia, puisque vous l'avez produit, ce film?
Oui.
Dans l'ordre, comment ça s'est passé?
Et bien donc, au début, c'est vraiment Marek qu'on connaît, qu'on estime. On voit qu'elle est bien plus que technicienne. On le sent.
Et qui n'avait pas encore réalisé de film.
Qu'elle n'avait rien réalisé. Et elle nous exprime son désir et on échange. Et elle nous dit qu'est-ce qui l'intéresse. Et elle commence à nous parler de qu'est-ce qui l'anime vraiment. Donc en l'occurrence, Marek, elle a une en bonne allemande, elle a une obsession pour l'origine du mal. Et donc elle nous raconte comment d'un fait divers, elle s'est mise à rencontrer des femmes qui revenaient du djihad. Et au début, elle le faisait presque comme de la recherche personnelle, enfin vraiment un truc. Et puis nous, on lui dit, ah mais c'est super, ça ferait un super sujet de film. Et puis elle nous parle de ses premières idées du court-métrage, puis du long-métrage. C'est comme ça que ça se passe au départ. Et après, on l'accompagne comme ça sur une idée qu'on développe, qu'on tricote ensemble. Et il y a des phases où elle est toute seule, puis elle vient nous voir comme ça régulièrement. C'est comme ça que ça se passe.
Donc, à ce stade, l'idée est peaufinée. Quand c'est qu'on passe au scénario?
Quand nous, on lui dit, OK, ça, c'est une bonne idée, vas-y. Et donc, au début, elle nous envoie une page, puis 5 pages, puis 10 pages.
Au fur et à mesure.
Ouais, et nous, on lit, on lui dit, ah, ça, oui, ça, pas sûr, est-ce que tu crois pas que... C'est comme ça que ça se passe, et c'est une discussion.
Alors, à ce stade, maintenant, bon, je reste avec Rabia, et il vous faut trouver de l'argent.
Ouais, donc d'abord, au scénario, on réfléchit à qui serait un bon co-scénariste. Donc, on lui propose des profils, elle nous parle de d'autres profils, voilà. Et puis, une fois qu'on a le bon scénario, oui, on trouve de l'argent. Et donc, avec Marek, on définit on écrit un beau dossier, parce que ça prend beaucoup de temps de se dire, OK, par quel prisme on va expliquer quel est l'intérêt de que ce film existe, quoi. C'est vraiment ça. Et on doit convaincre, parce qu'on parle quand même pour Rabia, on parle de trouver 2 millions d'euros. C'est beaucoup d'argent aujourd'hui, hein. 2 millions d'euros. Donc, trouver 2 millions d'euros, il faut convaincre vraiment les gens, quoi. Voilà.
Donc, ça ne se voit pas sur le sabot d'un cheval.
Non, exactement. Donc, on va avoir plein de partenaires. Mais nous, c'est-à-dire que tout ça se prépare. C'est pas une affaire qui sort ex nihilo comme ça. C'est aussi... le court-métrage, on l'a envoyé à plein de gens. Nous, on échafaude la notoriété aussi de la réalisatrice et l'intérêt qu'elle va susciter auprès des financiers divers et variés, donc auprès d'Arte, auprès de Canal. C'est que ça se prépare, en fait, avant qu'eux reçoivent le scénario et le dossier. Il y a déjà eu toutes les phases où nous, on les a invités aux projections des cours. À chaque fois qu'il y avait des bonnes nouvelles, on les tenait au courant. Et donc, eux, ils ont entendu parler déjà de la démarche de Marek, de qui elle est, de qu'est-ce qu'elle développe comme procédé, quoi. Vous voyez ?
Alors, passons à la distribution.
Ouais.
Vous êtes productrice. Le film, il faut le placer. Comment ça s'est passé pour Rabia ?
Donc, après, déjà, on l'a fabriqué.
Oui.
Donc le casting, oui. Fabrication, à chaque étape, les bonnes idées, les mauvaises idées, comment on tranche là-dessus. Et une fois qu'on a fini le film, ensuite, on a quand même des gens pour nous aider qui s'appellent les distributeurs et les vendeurs internationaux. Et eux, c'est leur boulot justement de se dire, OK, donc bon, tout le monde a envie d'aller à Cannes. À quel moment on le montre, quand est-ce que c'est le bon moment, et puis si on va pas à Cannes, est-ce qu'on va à Berlin, est-ce qu'on va à Venise, est-ce qu'on va à Deauville, voilà, on présente comme ça les plans A, plan B, plan C, et donc à quel moment va sortir le film, en fonction de toutes ces nouvelles-là, quoi.
Et quel est le résultat aujourd'hui? Ce film est sorti il y a un an, est-ce que
ouais.
ça
s'est bien passé, il a fait à peu près 50 000 entrées. Il a eu une belle notoriété, il a gagné le prix d'Ornano Valenti, donc du coup, le prix d'Ornano Valenti, c'est le prix qui est remis au meilleur premier film français selon la presse internationale, donc Variety, Times, plein de journaux très prestigieux comme ça et très prescripteurs, donc il a gagné ce prix-là, donc il a pu avoir une notoriété à l'étranger, voilà, c'était pas aussi, peut-être pour ce film, je pense qu'on a parfois, enfin... ça n'a pas été aussi simple que ce qu'on aurait espéré, mais là, le film, les gens qui l'ont vu l'ont vraiment beaucoup remarqué. Et le film, il a quand même été nommé au César et tout ça, donc on a suffisamment échafaudé les choses pour que Marek, elle puisse faire un deuxième film. Et c'est ça notre travail, nous, c'est de pouvoir penser sur la durée, quoi. Donc là, on a, pour le coup, c'est mon associé Lionel qui a lu un livre, parce que du coup, maintenant, les éditeurs, ils nous envoient des livres et en vue de d'adaptation. Il a lu un livre qui vraiment lui a paru pertinent pour Marek et du coup a proposé à Marek et du coup ça va devenir son deuxième film là.
Que vous produirez également ?
Ouais, exactement. D'accord.
Et voilà. Qui sera filmé en France ?
Eh bah, ben oui, a priori, oui.
D'accord.
Tout à fait.
Donc voilà une aventure heureuse.
Complètement.
D'accord. Alors revenons à vous. Comment est-ce que vous êtes devenue productrice ? Quelle formation vous avez suivie ? Pourquoi ce choix ? Il y a tellement de métiers dans le cinéma.
Ouais, c'est vrai. Mais je pense qu'il y a un truc très instinctif. Enfin, je pense que tous les gens qui travaillent dans le cinéma, au départ, ils sont... Enfin, même pas tous d'ailleurs, mais la plupart, ils sont cinéphiles. Et en fait, être cinéphile et vouloir en faire un métier, c'est quand même deux démarches très différentes. Et moi, j'étais une personne... Une petite personne, donc moi je viens d'une toute petite ville au fin fond de la Bretagne qui s'appelle Morlaix et j'étais obsédée par le cinéma.
C'est pas si petit que ça.
C'est pas si petit, non, c'est vrai, mais enfin j'étais vraiment, en plus je venais de la campagne à côté de Morlaix, quoi.
D'accord.
Vraiment. Et j'avais de la chance d'avoir des parents très très cinéphiles et donc à toutes les vacances de la Toussaint, j'allais à Paris. Et avec mon père, on avait l'officiel des spectacles et on faisait toutes les séances, 10h, midi, 14h, 16h, 18h. Et on faisait que ça. On faisait que aller au cinéma, tous les deux, pendant toutes les vacances de la Toussaint, pendant des années et des années. Et je regardais assez peu la télévision. Et puis, donc j'ai vu très peu de films à la télévision. Et donc, j'ai vu soit les films au cinéma à Paris, soit au cinéma dans ma petite ville, à Morlaix. On y allait souvent. Et donc, j'avais comme ça cette obsession. Puis après, j'ai fait des études. J'ai fait un lycée cinéma. J'ai fait un BTS audiovisuel. J'ai fait l'école des Gobelins en production de cinéma d'animation. Et surtout, j'ai fait finalement assez peu d'études. J'ai très vite travaillé. Et donc, même quand j'étais au lycée, je faisais des stages déjà dans des boîtes de production. Et moi, très vite, je me rendais compte que j'avais... Donc moi, j'ai une maman qui est comédienne. Et donc, je voyais bien que je n'avais pas envie d'être sur le devant devant la caméra. J'avais envie d'être derrière. Et après, je trouve que quand on a très vite, il y a un truc très instinctif. On est sur un plateau et on voit là où on est à l'aise. On voit...
On touche sa place.
Ouais, il y a un truc... On voit aussi, selon notre personnalité, là où on va être pertinent. Et moi, je voyais bien que je n'avais pas envie d'être réalisatrice, à prendre toutes les décisions, mais que j'avais envie d'être une personne importante dans les processus de décision. Et donc, je ne sais pas, c'est vraiment très... C'est presque un truc de test de personnalité, quoi. Il y a vraiment un truc comme ça, hyper simple.
Et vous êtes découverte en même temps que vous avez découvert le métier que vous vouliez faire.
On voit bien que les gens très extravertis vont être... ou très égotiques, ils vont trouver leur place là. Puis il y a des gens... Et puis, il y a d'autres gens. Moi, j'ai l'impression que les autres métiers que j'aurais pu faire, c'est assistante réalisateur ou script.
Pas un métier technique, chef opérateur, non ?
Non. Chef opérateur, c'est un métier... C'est passionnant, mais c'est un métier très égotique. Et c'est vrai que... Enfin, moi, j'aurais pas rêvé faire ça, quoi. Je pense qu'on sent... humainement, comment, à quoi on va servir. Ouais, moi, je crois beaucoup à la maïeutique. Je crois beaucoup qu'un film aussi, c'est vraiment... C'est comment on va transformer des névroses et des instincts qu'on a sur le monde en film. Et donc, il faut découper, il faut déplier ça. Et je trouve que le métier de producteur, c'est vraiment ça. Nous, on fait beaucoup, beaucoup de psychanalyse, en fait, sur qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce qui l'est pas, qu'est-ce qui est universel, qu'est-ce qui est vraiment qui va intéresser personne. Nous, on dépiote ça, quoi, vraiment. Donc c'est vraiment ce qui est le plus intéressant dans ce métier. Ouais.
Alors, justement, restons dans ce domaine des problèmes et satisfactions de ce métier. On peut imaginer que trouver le financement d'un film, ce n'est pas toujours facile et que vous devez frapper à de nombreuses portes. Vous avez un bon carnet d'adresses pour ça, j'imagine.
Oui, mais vraiment, moi, je trouve que notre métier, c'est surtout d'avoir eu du flair au départ, de savoir qui a vraiment l'instinct de faire des bons films. Et une fois qu'on a trouvé ces gens-là, presque, notre travail, c'est de les monter en mayonnaise, quoi. Et donc, c'est vraiment un travail sur le long cours. Donc, nous, on a eu la chance de produire des réalisateurs qui ont eu des Césars de courts-métrages, qui ont eu des prix à Cannes, qui ont eu des grands prix à Berlin, à Venise. Et donc, accompagner des réalisateurs qui ont déjà des courts-métrages, qui ont eu de tels succès, eh ben, c'est déjà une carte de visite énorme. Donc, il y a déjà une sorte d'attente. Dans le petit endroit des premiers films, des premiers longs métrages, il y a déjà cette attente, quoi. Donc en fait, notre travail, il a commencé bien avant. Et donc, ce qu'on fait, c'est vraiment mettre en valeur, faire feu de tout bois, quoi. Comme ça, au fur et à mesure, pour chacun de nos petits bébés, quoi, les faire grandir comme ça. Et puis celui pour qui c'est moins facile, peut-être lui faire faire un deuxième court métrage. Qu'il ait une notoriété assez grande pour qu'au moment du premier long, ça suffise, en fait. Ouais. Voilà.
Il faut rendre le produit crédible.
Ouais, c'est ça. Donc, tant dans les films précédents, dans les cours précédents, que dans le sujet des films, que dans les castings qui vont être associés à ces films-là. Mais pas pour pousser. Il faut aussi être stratégique, c'est-à-dire pas de la notoriété à tout prix, vraiment être, se dire, pour le projet de Rabza, la comédienne, elle était prometteuse et donc on savait qu'elle allait pouvoir être dans les révélations au César, quoi. Elle était au bon endroit aussi. Quelqu'un de plus connu aurait pu abîmer le sujet du film aussi, voyez. C'est
quand
vraiment...
Quand je vois ce que vous dites, je pense que vous avez créé cette maison de production à deux, avec un collègue.
Oui, Lionel.
Est-ce que, justement, je suis effaré par le nombre de critères dont il faut tenir compte pour assurer le succès d'un film.
Oui.
Est-ce que vous travaillez à deux ?
Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai qu'on ne vient pas des mêmes endroits, tous les deux. Moi, donc, je viens vraiment des plateaux.
Et pas la même sensibilité, sans doute.
Oui. Et oui, aussi. Enfin, on aime les mêmes films, mais je pense qu'on n'a pas les mêmes compétences. Donc, lui, il est vraiment... lui, il venait des structures. Il avait appris. Il était vraiment bras droit de producteur. Et moi, je venais vraiment des plateaux. Donc, moi, j'avais appris vraiment... j'étais secrétaire de prod, directrice de production. Donc, j'étais vraiment sur le moment des tournages. Alors que lui, il était en amont des tournages et en aval. Donc, il était fort en financement et en post-production. Moi, j'étais forte en fabrication des films, quoi. Vraiment au moment de comment on trouve un bon chef-op, de comment on fait avec peu, de toutes ces choses-là, c'était vraiment, moi, mes savoirs. Et donc, ensemble, on est complémentaires. Mais je pense que c'est aussi comme ça qu'un réalisateur doit s'entourer. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il sait faire lui bien et qu'est-ce qu'il sait pas faire et comment trouver les bonnes personnes pour...
Parce qu'on ne peut pas tout faire bien.
Exactement, on ne peut pas être bon partout, il faut être humble là-dessus. Donc, t'es chef d'orchestre et puis t'as des dominantes, quoi. Et nous, on a des bons savoir-faire et puis ce qu'on ne sait pas faire, on le délègue, on trouve les bonnes personnes pour ça.
Mais vous avez employé le mot complémentaire.
Complètement.
Voilà. Alors, vous, autre chose, vous avez travaillé sur des courts-métrages, sur des longs-métrages, des films d'animation... Est-ce que vous avez une préférence?
Par exemple, l'animation, c'est plus mon associé que moi.
Oui.
Moi, je suis une grande cinéphile d'animation, mais je trouve qu'à fabriquer, c'est un petit... Il y a un peu moins d'adrénaline, parce que c'est des temps très longs. Donc, il y a un peu moins le jour J, comme ça, l'excitation du premier jour, où vraiment tout va se sédimenter, quoi. Ouais, moi, ça m'excite énormément. Donc, moi, j'aime la fiction plus que le documentaire.
Voilà.
Mais pourtant, je suis une grande cinéphile de documentaire aussi.
Alors, voilà, justement, vous parlez de votre sensibilité. Chaque producteur a nécessairement sa propre sensibilité, sa conception personnelle de son métier, de ce qu'est un film réussi. Et donc, ça doit influencer le type de film que vous souhaitez produire.
Oui.
Et, évidemment.
Bien sûr. De toute façon, tout est politique. C'est-à-dire, un réalisateur ne peut pas faire de film sans producteur. Et donc, un producteur décide de qui il accompagne. Et c'est vrai que nous, par exemple, on a vraiment à cœur d'accompagner des bons humains aussi, des gens qui sont moralement et politiquement raccord avec la manière qu'on a de voir le monde et de voir qu'est-ce que c'est travailler, qu'est-ce que c'est réfléchir, quels sont les sujets qui sont importants à aborder.
Voilà, vous m'enlevez une question de la bouche, mais vous allez pouvoir compléter. J'allais vous demander justement s'il n'est pas nécessaire qu'il y ait une forme de complicité entre vous et le metteur en scène.
Ah, totalement. En tout cas, nous, on le voit comme ça. C'est pas le cas de tous les alliages, mais... Moi, je trouve que la vie, elle est courte et on travaille ensemble pendant des années. Hein. C'est vraiment... Moi, les réalisateurs avec qui je travaille, au moment où on est dans le dur, je passe deux fois plus de temps avec eux qu'avec mon amoureux. Donc, c'est des gens avec qui on... les réalisateurs avec qui je travaille, tous les jours, on s'appelle. Tous les jours, on est en lien. Donc, c'est énormément de temps passé, donc il faut qu'on soit raccord. On peut pas travailler avec des gens qu'on n'estime pas humainement, moralement, c'est pas possible quoi.
Donc si on revient à l'exemple de Rabia, vous avez eu une vraie complicité avec Marijke.
Ah oui, tout à fait. Mmh. Ah oui, c'est plus mon associé que moi pour le coup sur ce film-là, mais oui, on est, c'est-à-dire que vraiment on est en lien quotidien sur toute la phase de réflexion. Écriture. Après, il y a des moments, par exemple, où on est un peu plus éloigné, par exemple, le moment où, du scénario, pour avoir du recul. Peut-être, des fois, on ne lit pas le scénario pendant un mois.
Oui.
Ça arrive, ça. Mais c'est juste pour... c'est pas pour ça qu'on ne s'appelle pas régulièrement, mais c'est juste pour avoir un peu de recul et se dire, ah, ok, là, vraiment, cette nouvelle idée, elle est vraiment bonne, ou alors elle n'est pas bonne, il faut l'abandonner. Ce nouveau personnage, il a vraiment de la pertinence ou pas.
Il faut le creuser ou au contraire... Voilà. Ouais. D'accord. Oui. Alors, pour rester dans ce domaine, il y a des sujets qui peuvent vous intéresser à titre personnel,
oui,
mais qui ne sont pas porteurs. Et au contraire, des sujets qui vous intéressent moins personnellement, mais dont vous savez par expérience qu'ils ont beaucoup plus de chances de rencontrer du succès. Alors, est-ce qu'il s'agit de trouver une côte mal taillée
Non, pas du tout. Moi, je ne crois pas du tout à l'opportunisme là-dessus. Parce que je pense qu'un sujet qu'on pourrait dire porteur, je ne sais pas, par exemple... Je ne sais pas quoi. Par exemple, on pourrait dire... Il y a eu pendant tout un moment des films sur... les tableaux, la peinture, il y a eu des comédies, il y a eu des films historiques, mais du coup on en a vu plein et du coup les gens pouvaient être saoulés aussi à un moment. C'est-à-dire que comme on maîtrise pas vraiment le moment où on va terminer le scénario et réussir à faire le film et le moment où il va sortir, on peut pas vraiment prédire. Là on est en train de faire des films qui vont exister dans 3 ans, donc on peut pas prédire. Quels vont être les sujets porteurs dans 3 ans ?
Sinon, le soufflet risque de retomber.
Mais oui, donc en fait, nous, on est davantage à faire confiance à notre honnêteté, à notre sincérité et à la sincérité que le réalisateur il a vis-à-vis d'un sujet et à la légitimité, la spécificité qu'il a. Et par exemple, Marijke avec qu'est-ce que c'est à un moment, comment on fait des mauvais choix dans la vie ? Des mauvais choix graves, comme mettre la vie d'autrui en danger. Comment on en vient à faire ces choix-là dans la vie, à basculer du côté du mal? Elle a une histoire très personnelle vis-à-vis de ça. Donc, elle s'est rendue compte que son grand-père était dans les jeunesses nazies, alors qu'elle a été élevée par son grand-père et tout ça. Donc, elle, aujourd'hui, toute sa vie, elle est déterminée sur cette question, à essayer de comprendre ça, à essayer de rendre ça compréhensible pour le spectateur. Et donc, parallèlement à ça, il y a ces femmes qui reviennent du djihad. On savait même pas qu'il y avait des femmes qui étaient parties au djihad. Elle se dit, mais c'est antinomique, être femme, être mère, comment on peut avoir envie d'avoir des élans de mort comme ça, en France, dans un pays privilégié et tout ça. Et donc elle essaye comme ça de gratter, de comprendre. Et le film qu'elle livre, c'est sa lecture. C'est une petite clé pour essayer de comprendre finalement qu'est-ce qu'on fait mal en France en tant que société pour que des jeunes femmes françaises aient envie de partir. Qu'est-ce qu'on a abandonné? Qu'est-ce qu'on a mal fait?
En même temps, elle parle d'elle-même d'une certaine façon.
Exactement. Elle se dit, tiens, et moi, qu'est-ce que j'aurais fait à la place de mon grand-père? C'est ça, exactement. Oui, donc, nous, on a envie d'accompagner ça parce que nous aussi, on a besoin de clés pour comprendre le monde. Donc, voilà.
À vous écouter, tout ce que vous avez dit, je trouve que le métier de productrice, c'est un métier d'accoucheur.
Totalement.
Vous avez employé le mot maïotique, c'est ça.
Ouais.
La maïotique, c'est ça.
Oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait, vraiment, franchement, le
un facilitateur.
Oui, et puis des fois, ce qui est hyper marrant, c'est que les réalisateurs, il y a des évidences, c'est comme le nez au milieu de la figure, il faut aller par là, et eux, ils n'y arrivent pas. Parce que parce que c'est pas si facile de se raconter soi, de raconter des choses. Et donc ils vont dans des facilités, dans des clichés, dans des trucs, on leur dit mais non, vas-y, va par là, c'est là, c'est ici, il est là ton sujet. Et donc nous on sert à ça, et on peut pas le faire avec violence, on le fait avec on essaye de le faire avec pédagogie, avec diplomatie, avec attention, parce que ce qu'on manipule, c'est fragile.
Bien sûr. Alors justement, vous avez employé le mot violence. J'aimerais qu'on aborde le problème éthique. J'imagine que vous pouvez être amené à refuser un projet de film ou une scène dans un film pour des raisons éthiques. Problème de violence, scène dégradante. Justement, je pensais au film « La vie de Jésus » de Bruno Dumont, dans lequel on voit une scène de sexe non simulé avec une prostituée, apparemment. Quelle est votre position par rapport à ce genre de problème ?
Alors vraiment, je pense qu'il y a eu toute une période qui était un peu... moi, je dirais, en tout cas, parlons du cinéma français, parce que j'arriverais pas à parler du cinéma mondial, mais dans le cinéma français, en tout cas, il y a eu les héritiers de Maurice Pialat qui ont vraiment appliqué dans des méthodes de tournage pour retranscrire des états de violence et de mettre les comédiens dans des états assez limites pour capter ça avec la caméra. Et moi, je pense que ces méthodes-là, elles sont arriérées, elles sont ancestrales, et qu'aujourd'hui, on doit faire confiance à la qualité d'interprétation des comédiens, et on doit les laisser, on doit davantage les accompagner dans les zones un peu limites dans lesquelles ils peuvent se mettre pour accéder à des... C'est-à-dire que c'est pas que ces histoires-là, elles ne doivent plus être racontées, c'est qu'elles ne doivent plus être racontées, c'est que les moyens pour y arriver... ne doivent plus être au détriment des interprètes.
Il ne faut pas que ce soit coercitif.
Non, il y a vraiment... c'est un travail qu'on doit faire, et c'est notre, c'est là où on doit être doué, et peut-être qu'on a encore du chemin à faire pour que les interprètes ne soient des réceptacles et ne doivent pas être abîmés par ceux qui traversent. Et on doit les accompagner là-dedans. Ils doivent pas être seuls là-dedans.
Voilà. Et vous le faites avec le metteur en scène, bien sûr.
On le fait avec le metteur en scène. Donc, ouais. Et nous, on doit être vigilants là-dessus. On doit aussi les accompagner. Aujourd'hui, il y a des coachs d'intimité, par exemple, pour les scènes de sexualité. Et je pense qu'on doit aller plus loin aussi sur des formes d'accompagnement psychologique aussi, quand on se retrouve à jouer vraiment des personnages qui vont loin dans des... dans le mal, dans des choses très sombres et tout ça. Je pense que presque on doit accompagner psychologiquement aussi les interprètes
là-dessus. En particulier si on a affaire à des enfants, bien sûr.
Alors là, n'en parlons pas,
c'est
évidemment.
C'est spécial, là, oui.
C'est tout à fait... c'est vraiment... Il y a eu trop d'exemples de gens qui ont été flingués par des tournages.
Ouais,
et c'est... Et c'est dramatique,
ouais.
Et on a une responsabilité là-dessus. Ouais. Et nous, on a une très grande responsabilité là-dessus.
On pense à l'actrice Fiona Gelin, par exemple, qui a été détruite par le film, je me rappelle plus tard, Dernier Tango à Paris.
Maria Schneider.
Je me trompe sur le nom de l'actrice.
Ah oui, Maria
D'accord.
Schneider, bien sûr.
D'accord.
Mais il y en a des tonnes, en fait. On parle
effectivement,
vraiment, carrément, elle a subi une scène de viol filmée, non simulée, filmée à son insu, par surprise. Ouais. C'est hallucinant, mais il y en a plein.
C'est impensable aujourd'hui, j'espère.
J'espère que c'est impensable, mais même à des petits niveaux, je pense qu'il y a des gens qui ne se rendent pas compte, même une main sur des parties intimes...
c'est pas évident.
C'est interdit, en fait. C'est une agression sexuelle et il faut poser les mots tels qu'ils sont. Et les commissions d'enquête qui ont été initiées par Judith Godrèche, donc à l'initiative de Judith Godrèche et portées par Sandrine Rousseau, ont fait beaucoup de bien là-dessus pour vraiment sortir de la zone de flou et dire ça c'est interdit, ça c'est autorisé, c'est très simple. Hein,
Alors, le temps qui nous est imparti tire à sa fin. Une dernière question toutefois, est-ce que votre travail s'arrête au moment où le film sort ou est-ce que vous travaillez à... ensuite à la pérennité du film.
Tout à fait, notre travail c'est aussi, et moi ça c'est marrant parce que on parlait moi j'ai vraiment appris mon métier avec la famille Demi Varda et avec Agnès Varda qui en fait on la connaît comme extraordinaire réalisatrice, mais on la connaît pas comme redoutable productrice. Mais vraiment, c'est une productrice hors pair. Et donc, elle est sa propre productrice, elle a une maison de production, elle a récupéré tous les droits de tous ses films et de tous les films de Jacques Demy. Et elle a donc une société qui s'appelle Ciné-Tamaris, et c'est une sorte de mini-cinémathèque. Et si aujourd'hui, les films de Jacques Demy et d'Agnès Varda sont si actuels, mis au goût du jour, réhabilités et continuent d'exister autant, alors que, je ne sais pas, le travail de Chantal Akerman a presque disparu. Il y a plein de cinéastes comme ça qui ne sont pas du tout aussi renommés qu'Agnès et que Jacques. C'est aussi parce qu'Agnès, elle a récupéré les droits de leurs films. Et qu'elle les a, que chaque année, elle et sa fille Rosalie, elles travaillent à faire des expositions, faire des rétrospectives, éditer des livres, et ça dans le monde entier. Et en fait, c'est un travail de productrice.
Faire vivre un film dans le temps.
Exactement. Et donc, travailler à la notoriété, à ne pas faire baisser la notoriété et la reconnaissance de ces deux cinéastes. Et c'est vraiment... un travail quotidien que fait sa fille et puis qu'elle a fait pour elle-même et pour Jacques pendant des années.
Mais j'aurais bien d'autres questions à vous poser. Là, la durée de l'émission, là, la mission tire à sa fin. Et il me reste à vous remercier pour votre intervention qui est passionnante.
Merci beaucoup à vous. Merci.
Merci beaucoup.
Voilà, on va ça.
What is this, Connor? Easy, easy, old man. She's not hurt?
No, wounded, sir.
It's been a long time.
Yes, ma'am. Mi conosce?
Filomena.
Filomena.
Proprio non mi ricordate.
Menose, fatti il viso. Papa, fatti il viso.